Mais un frémissement avait couru. Barou s'était levé pour monter à la tribune. Il y redressa sa grande taille, dans un mouvement qui lui était habituel et qui rejetait sa tête en arrière. Sa belle face rasée, que gâtait seul le nez trop petit, prenait une majesté voulue, hautaine et un peu triste. Et tout de suite, il dit sa mélancolie indignée, en beau langage fleuri, avec des gestes de théâtre, une éloquence de tribun romantique, où l'on devinait le brave homme, l'homme tendre, un peu sot qu'il était au fond. Cependant, ce jour-là, il vibrait d'une réelle et profonde émotion, car son cœur saignait du désastre de sa destinée. Il sentait crouler avec lui tout un monde. Ah, le cri de désespoir qu'il retenait, le cri du citoyen que les événements soufflettent et rejettent le jour où il croit avoir droit au triomphe pour son dévouement civique. S'être, dès l'Empire, donné à la République corps et bien, avoir lutté, souffert la persécution pour elle, l'avoir fondée ensuite, après les horreurs d'une guerre nationale et d'une guerre civile, au milieu de la quotidienne bataille des partis, puis, lorsqu'elle triomphait enfin, désormais vivante, inexpugnable, s'y sentir brusquement comme un étranger d'un autre âge, entendre les nouveaux venus parler une autre langue, défendre un autre idéal, assister à l'effondrement de tout ce qu'on aime, de tout ce qu'on révère, de tout ce qui vous a donné la force de vaincre. Les puissants ouvriers de la première heure n'étaient plus. Gambetta avait eu raison de mourir. Mais quelle amertume pour les derniers vieux qui restaient, au milieu de la jeune génération intelligente et fine, qui souriait doucement en les trouvant d'un romantisme démodé. Tout croulait, du moment que l'idée de liberté faisait banqueroute, que la liberté n'était plus l'unique bien, le fondement même de la République, qu'ils avaient si chèrement acheté, d'un si long effort. Très droit, très digne, Barou avoua. La République était l'arche sainte, les pires moyens se sanctifiaient pour la sauver, dès qu'elle pouvait être en péril. Et il conta l'histoire très simplement. Tout l'argent de la banque du Villard, qui allait aux journaux de l'opposition, sous prétexte de publicité, tandis que les journaux républicains touchaient des sommes dérisoires. Comme ministre de l'Intérieur, il avait alors charge de la presse. Et qu'aurait-on dit s'il ne s'était pas efforcé de rétablir un juste équilibre, de façon que la puissance des adversaires du gouvernement ne s'en trouvât pas décuplée? Les mains se tendaient vers lui, 20 journaux, et des plus méritants, des plus fidèles, réclamaient leur légitime part. C'était cette part qu'il leur avait assurée, en leur faisant distribuer les 200 000 francs portés à son nom sur la liste. Pas un centime n'était entré dans sa poche. Il ne permettait à personne de douter de sa probité. Sa simple parole devait suffire. Et, à ce moment, il fut vraiment d'une grandeur admirable. Tout disparut, sa médiocrité pompeuse, son emphase. Il n'y eut plus qu'un honnête homme, frémissant, le cœur à nu, la conscience saignante de ce qu'il en arrachait de vérité, dans la mère détresse d'avoir été à la peine et de comprendre qu'il ne serait point à la récompense. Le discours, en effet, tombait dans un silence de glace. Barou, naïf, qui avait cru à un élan d'enthousiasme, à une chambre républicaine l'acclamant d'avoir sauvé la République, était envahi peu à peu, lui-même, par le souffle froid qui montait de tous les bancs. Tout d'un coup, il se sentit isolé, fini, touché par la mort. C'était en lui un écroulement, un vide de sépulcre. Pourtant, il continua, au milieu du terrible silence, avec une bravoure de pauvre homme qui achève de se suicider, voulant mourir debout par amour des nobles et éloquentes attitudes. Sa fin fut un dernier beau geste. Lorsqu'il descendit de la tribune, la froideur s'aggrava et il n'y eut pas un applaudissement. Par comble de maladresse, il avait fait une allusion aux menées sourdes de Rome et du clergé, qui, selon lui, ne tendaient qu'à reconquérir les positions perdues et qu'à reconstituer plus ou moins prochainement la monarchie.
« Est-il bête ? Est-ce qu'on avoue ?»
murmura Massot.
« Fichu ! Et le ministère avec lui !»
Alors, ce fut au milieu de cette chambre glacée que Montferrand monta rondement à la tribune. Le malaise était fait de la sourde peur que cause toujours la sincérité, de la désolation des députés vendus qui se sentaient couler à l'abîme, aussi de l'embarras des consciences devant les compromissions plus ou moins excusables de la politique. Et il y eut comme un soulagement public lorsque Montferrand débuta, à toute volée, par le démenti le plus formel, tapant d'un poing sur la tribune, se donnant de l'autre des coups en pleine poitrine, au nom de son honneur outragé. Ramassé et court, la face en avant, avec son nez épais de sensuel et d'ambitieux, il fut un moment superbe dans sa carrure, sous laquelle il cachait sa profonde finesse. Il niait tout. Non seulement il ignorait ce que voulait dire ce chiffre de 80 000 francs inscrit en regard de son nom, mais encore il mettait au défi la terre entière de prouver qu'il avait touché un sou de cet argent. Son indignation bouillonnait, débordait, au point qu'il ne se contentait pas de nier en son nom, qu'il niait aussi au nom de tous les députés, de toutes les chambres françaises présentes et passées, comme si cette monstruosité d'un mandataire du peuple vendant son vote dépassait la honte des crimes prévus, tombait à l'absurde. Et les applaudissements éclatèrent, la chambre réchauffée, délivrée, l'acclama. Pourtant, des voix partirent du petit groupe socialiste qui huait le sommant de s'expliquer sur les chemins de fer africains, lui rappelant qu'il était ministre des Travaux publics lors du vote, exigeant enfin de savoir ce qu'il comptait faire aujourd'hui comme ministre de l'Intérieur devant les délations pour rassurer la conscience du pays. Et il escamota la question. Il déclara que s'il y avait des coupables, justice en serait faite, car personne n'avait besoin de lui rappeler son devoir. Puis, tout d'un coup, avec une force, avec une maîtrise incomparable, il exécuta le mouvement de diversion qu'il préparait depuis la veille. Son devoir, il ne l'oubliait jamais. Il le faisait en soldat fidèle de la nation, à toute heure, avec autant de vigilance que de prudence. Ainsi, ne l'avait-on pas accusé d'employer la police à il ne savait quel bas service d'espionnage, ce qui aurait permis au fameux Hunter de s'échapper? Eh bien, cette police si calomniée, il pouvait dire à la Chambre à quoi il l'avait réellement employée la veille, ce qu'elle avait fait pour la justice et pour l'ordre. La veille, au bois de Boulogne, elle avait arrêté le pire des malfaiteurs, l'auteur de l'attentat de la rue Godot de Mauroy, cet ouvrier mécanicien anarchiste, ce Salva, qui, depuis plus de 6 semaines, déjouait toutes les recherches. Dans la soirée, on avait obtenu du misérable des aveux complets. La justice allait faire son œuvre promptement. Enfin, la morale publique était vengée. Paris pouvait sortir de sa longue terreur. L'anarchie serait frappée à la tête. Et voilà ce qu'il avait fait, lui, ministre, pour l'honneur et pour le salut du pays, pendant que 10 mondes délateurs essayaient vainement de salir son nom en l'inscrivant sur une liste d'infamie, œuvre inventée des plus basses manœuvres politiques. béante, frémissante, la chambre écoutait. Cette histoire d'une arrestation qui lui tombait du ciel, dont pas un journal du matin n'avait parlé, ce cadeau que semblait lui faire Montferrand du terrible Salva, lequel commentait à passer pour un simple mythe de scélératesse, toute cette mise en scène la soulevait comme devant un drame longtemps inachevé, et dont le dénouement éclatait soudain devant elle. Profondément remuée et flattée, elle fit une longue ovation à l'orateur qui continuait à célébrer son acte d'énergie. La société sauvée, le crime châtié, sans oublier l'engagement d'être toujours et partout l'homme fort, maître de l'ordre. Et il conquit même les bancs de la droite, lorsque, se séparant de Barou, il termina par un salut de sympathie aux catholiques ralliés, par un appel à la concorde des diverses croyances contre l'ennemi commun, le farouche socialisme qui parlait de tout détruire. Quand Montferrand descendit de la tribune, le tour était joué. Il s'était repêché. La chambre entière applaudissait, gauche et droite confondues, couvrant la protestation des quelques socialistes dont la clameur ne faisait qu'ajouter à ce tumulte de triomphe. Des mains se tendaient vers lui. Il resta un instant debout, bonhomme et souriant, mais d'un sourire où grandissait une inquiétude. Son succès commençait à le gêner, à lui faire peur. Est-ce qu'il aurait trop bien parlé? Est-ce qu'au lieu de se sauver seul, il aurait aussi sauvé le ministère? C'était la ruine de tout son plan. Il ne fallait pas que la chambre votât sous le coup de ce discours qui venait de la bouleverser. Et il passa là 2 ou 3 minutes d'anxiété véritable, à attendre, souriant toujours, si personne ne se levait pour lui répondre. Dans les tribunes, le succès était aussi grand. On avait vu des dames applaudir, et Monseigneur Martin lui-même donnait les marques de la plus vive satisfaction. « Mon général, » disait Massot en ricanant, « voilà nos hommes de guerre d'aujourd'hui, et un rude homme celui-là. C'est ce qu'on appelle tirer son épingle du jeu. Seulement, c'est tout de même du bel ouvrage. » Enfin, Montferrand aperçut Vignon, poussé par ses amis, qui se levait et montait à la tribune. Alors, son sourire retrouva toute sa bonhomie malicieuse, et il reprit sa place au banc des ministres pour écouter béatement. Avec Vignon, tout de suite, l'air de la chambre changea. Il était mince et correct à la tribune, avec sa belle barbe blonde, ses yeux bleus, son attitude souple de jeunesse. Mais surtout, il parlait en homme pratique, d'une éloquence simple et directe, qui faisait paraître plus vide et plus emphatique les déclamations de ses aînés. Il avait gardé de son passage dans l'administration une vive intelligence des affaires, une façon aisée de poser et de résoudre les questions les plus complexes. Actif, brave, sûr de son étoile, ayant la chance d'être trop jeune et trop adroit pour s'être encore compromis dans rien, il marchait à l'avenir, après s'être donné un programme un peu plus avancé que celui de Barou et de Montferrand, afin d'avoir une raison de prendre leur place après les avoir renversés. Très capable d'ailleurs de réaliser ce programme, en tentant les réformes depuis si longtemps promises. Il avait compris que l'honnêteté, servie par la prudence et la finesse, aurait enfin son jour. Et très posément, de sa voix claire, il dit ce qu'il y avait à dire, ce que le bon sens, la sourde conscience de la chambre elle-même, attendait. Certes, il était le premier à se réjouir d'une arrestation qui rassurerait le pays. mais il ne voyait pas quel lien il pouvait y avoir entre cette arrestation et la triste affaire soumise à la chambre. C'étaient là deux questions totalement différentes. Il suppliait ses collègues de ne pas voter sous l'excitation passagère où il les voyait. Il fallait que la lumière fût complète, et ce n'étaient naturellement pas les deux ministres incriminés qui pouvaient la faire. Du reste, il se prononçait contre l'idée d'une commission d'enquête. Il était d'avis qu'on devait simplement déférer les coupables, s'il y en avait, à la justice. Et il termina lui aussi par une discrète allusion à l'influence grandissante du clergé, en disant qu'il n'admettait les compromissions d'aucune part, repoussant aussi bien la dictature d'État que le réveil de l'ancien esprit théocratique. Des «
très bien, très bien »
coururent d'un bout à l'autre de la chambre. Il n'y eut que quelques applaudissements lorsque Vignon regagna sa place. Mais la chambre s'était ressaisie. La situation apparaissait si nette, le vote si certain, que Meige, dont l'intention était de parler encore, eut la sagesse de se résigner au silence. Et l'on remarqua l'attitude tranquille de Montferrand, qui n'avait cessé d'écouter Vignon avec complaisance, comme s'il rendait hommage au talent d'un adversaire. Tandis que Barou, depuis le froid de glace où venait de tomber son discours, était resté à son banc, immobile, d'une pâleur de mort, comme foudroyé, écrasé sous l'écroulement du vieux monde. « Allons, ça y est, » reprit Massot. « Fichu le ministère. Vous savez, ce petit Vignon, il ira loin. On dit qu'il rêve l'Élysée. En tout cas, le voilà désigné pour être le chef du prochain cabinet. » Puis, au milieu du brouhaha des scrutins qui s'ouvraient, comme il voulait s'en aller, le général le retint. « Attendez donc, monsieur Massot. Quel dégoût que cette cuisine parlementaire! Vous devriez le dire dans un article. Montrer comment le pays est peu à peu affaibli, gâté jusqu'aux moelles par des journées pareilles d'inutiles et sales discussions. Une bataille où 50 000 hommes resteraient par terre nous épuiserait moins, nous laisserait au cœur plus de vie que 10 ans d'abominable parlementarisme. Venez donc me voir un matin. Je vous soumettrai un projet de loi militaire. La nécessité d'en revenir à notre armée professionnelle est restreinte d'autrefois, si l'on ne veut pas que notre armée nationale, si embourgeoisée et d'une masse si illusoire, ne soit le poids mort qui coulera la nation. » Depuis l'ouverture de la séance, Pierre n'avait pas prononcé une parole. Il écoutait avec soin, d'abord dans l'intérêt immédiat de son frère, puis gagnait peu à peu lui-même par la fièvre qui s'emparait de la salle. Une conviction se faisait en lui que Guillaume ne craignait plus rien. Mais quel retentissement d'un événement à un autre, et comme cette arrestation de Salva se répercutait ici. Les faits se rejoignaient, se traversaient, se transformaient sans cesse. Penché sur le bouillonnement de la salle, il y devinait les 1000 chocs des passions et des intérêts. Il avait suivi la grande lutte entre Barou, Montferrand et Vignon. Il regardait la joie enfantine du terrible Meige, simplement heureux d'avoir remué le fond boueux de cette eau, où il ne pêchait jamais que pour les autres. Et maintenant, il s'intéressait à Fonsègue, très calme, dans le secret de l'avenir, en train de rassurer Dutheil et Chaigneux, tous deux effarés par la chute certaine du ministère. Puis, c'était toujours à Monseigneur Martha qu'il revenait. C'était lui qu'il n'avait pas quitté des yeux, suivant les émotions de la séance sur sa face sereine et heureuse, comme si toute la dramatique comédie parlementaire se fût seulement jouée pour le lointain triomphe espéré par ce prêtre. Et, En attendant qu'on proclamât le résultat du vote, il n'entendait plus, à côté de lui, que Massot et le général, causant tactique, cadres et recrutement, se querellant sur la nécessité d'un bain de sang pour toute l'Europe. Ah, la dolente humanité, toujours à se battre, à se dévorer, dans les parlements et sur les champs de bataille. Quand donc désarmerait-elle pour vivre enfin selon la justice et la raison? La confusion s'éternisa au sujet des ordres du jour, une pluie d'ordres du jour, qui allait de celui de Meige, très violent, à celui de Vignon, simplement sévère. Le ministère n'acceptait que l'ordre du jour pur et simple, et il fut battu. Ce fut enfin celui de Vignon que vota la Chambre à une majorité de 25 voix. Une partie de la gauche s'était certainement jointe à la droite et au groupe des socialistes. Toute une longue rumeur montant de la salle, gagnant les tribunes, accueillit le résultat. « Allons, » dit Massot en partant avec le général et avec Pierre. « Nous en sommes à un ministère Vignon. » Mais tout de même, Montferrand s'est repêché. À la place de Vignon, je me méfierais. Le soir, dans la petite maison de Neuilly, il y eut des adieux d'une simplicité et d'une grandeur émouvantes. Après la rentrée de Pierre, attristé mais rassuré, Guillaume avait décidé formellement que, dès le lendemain, il irait reprendre à Montmartre sa vie et ses travaux habituels. Et comme Nicolas Barthès lui aussi devait partir, la petite maison allait donc retomber dans sa solitude et dans sa désespérance. Théophile Morin était venu, averti par Pierre de la douloureuse nouvelle, et lorsque les quatre hommes se mirent à table, à 7 heures, Barthès ne savait rien encore. Toute la journée, il s'était promené d'un bout à l'autre de sa chambre, de son pas lourd de lion en cage, vivant là, dans cet asile offert par un ami, un grand enfant héroïque, qui ne s'inquiétait jamais des conditions du présent, ni des menaces du lendemain. Sa vie avait toujours été un espoir sans limite, qui toujours se brisait contre les bornes de la réalité. Tout ce qu'il avait aimé, tout ce qu'il avait cru acheter par près de 50 ans de prison et d'exil, la liberté égalitaire, la république fraternelle, avait beau crouler déjà, donner à son rêve les plus durs démentis, il gardait quand même sa foi, la foi candide de sa jeunesse, certaine du prochain avenir. Il souriait divinement lorsque les nouveaux venus, les violents qu'il avait dépassés, le raillait, le traitait en bon vieillard. Lui-même ne comprenait rien aux sectes nouvelles, s'indignait de leur manque d'humanité, superbe et têtu dans son idée de régénérer le monde par la conception simpliste des hommes naturellement bons, tous libres et tous frères. Et ce soir-là, en dînant, se sentant avec des amis tendres, il fut très gai. Il montra l'ingénuité de son âme par l'absolue certitude où il était de voir son idéal se réaliser prochainement, malgré tout. Puis, comme il était un conteur exquis, lorsqu'il voulait bien causer, il eut des histoires charmantes sur ses diverses prisons. Il les connaissait toutes, et Sainte-Pélagie, et le Mont-Saint-Michel, et Belle-Île-en-Mer, et Clairvaux, et les cachots transitoires, et les pontons empoisonnés, riant encore à certains souvenirs, disant le refuge qu'il avait partout trouvé dans sa libre conscience. Et les trois hommes qui l'écoutaient étaient charmés, malgré l'angoisse qui leur serrait le cœur, à la pensée que cet éternel prisonnier, cet éternel banni, devait se lever de nouveau et reprendre son bâton pour le départ. Au dessert seulement, Pierre parla. Il dit de quelle façon le ministre l'avait fait appeler et les 48 heures qu'il donnait à Barthès pour gagner la frontière, s'il ne voulait pas être arrêté. Le vieil homme, à la longue toison blanche, au nez en bec d'aigle, aux yeux toujours brûlants de jeunesse, se leva gravement, voulut partir tout de suite. « Comment, mon enfant, vous savez cela depuis hier, et vous m'avez gardé? Vous m'avez fait courir le risque de vous compromettre davantage en restant dans votre maison? Il faut m'excuser, je ne pensais pas au tracas que je vous donne. Je croyais que tout allait s'arranger si bien. Et merci, merci à Guillaume, merci à vous, des quelques jours si calmes que vous avez donnés au vieux vagabond, au vieux fou que je suis. » On le supplia de rester jusqu'au lendemain matin. Il n'écouta rien. Un train partait pour Bruxelles vers minuit et il avait tout le temps de le prendre. Même, il refusa formellement que Morin se donnât la peine de l'accompagner. Morin n'était pas riche, avait ses occupations. Pourquoi donc lui aurait-il pris son temps lorsqu'il était si simple qu'il partît seul? Il retournait à l'exil, comme à une misère, à une douleur depuis longtemps connue, en juif errant de la liberté, que son martyr légendaire pousse éternellement par le vaste monde. À 10 heures, dans la petite rue endormie, lorsqu'il prit congé de ses hôtes, des larmes noyèrent ses yeux. « Ah, je ne suis plus jeune, c'est fini cette fois, je ne reviendrai pas. Mes os vont dormir là-bas, dans quelque coin. » Mais après avoir embrassé tendrement Guillaume et Pierre, il eut un redressement de toute son indomptable et fière personne. Il jeta un suprême cri d'espoir. « Bah, qui sait? Le triomphe est pour demain, peut-être. L'avenir est à qui le fait et l'attend. » Et il avait disparu, que longtemps encore, on entendit le bruit sonore et ferme de ses pas se perdre au loin dans la nuit claire.